15.
Tous les jours, 18h45, 15 minutes d'actu.
15 minutes d'actu.
15 jusqu'à 19h
avec Bintili.
Move! 18h45, vendredi 19 avril, vous écoutez 15, bienvenue chez vous. Je ne sais pas comment vous vous sentez, parce que moi je commence à m'inquiéter du conflit Iran-Israël, surtout quand ça arrive jusqu'à Paris, avec cet homme arrêté cet après-midi au consulat d'Iran, on va en parler. Julien vient de garer sa DeLorean, il revient du futur lundi, c'est la journée de la Terre. Il nous dit que dans 6 ans, ce jour-là, les voitures à moteur essence et diesel n'auront pas le droit de rouler. Notre invitée de la semaine, c'est Valérie De Swetchin, à 100 jours des JO. Elle nous présente son livre « Championne, 50 femmes qui ont marqué l'histoire du sport ». Et avec notre skippeuse Marion Pépin. Salut Marion.
Salut Bintili.
Focus sur la série La Fièvre sur Canal+, à skip, la fondation Jean Jaurès s'est penchée dessus.
Et des journalistes, des chercheurs et des universitaires ont analysé la série et c'est super intéressant.
Mais avant de découvrir tout ça, qu'est-ce qui tourne dans les médias ?
15.
Move ! Ça dit quoi ? Ça dit quoi ce 19 avril ? Ça dit ça.
L'arrestation d'un homme qui s'était retranché ce matin dans le consulat d'Iran à Paris. Il portait un gilet d'explosifs factice. Il s'était introduit en fin de matinée dans le bâtiment diplomatique iranien dans le 16e arrondissement de la capitale et menaçait de le faire exploser. Aucun explosif n'a été retrouvé sur place. Un important dispositif policier est toujours déployé dans le secteur.
Une intervention à Paris dans un contexte de tension au Proche et Moyen-Orient. Ce matin, des explosions ont été rapportées près d'une base militaire en Iran. L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire alors que les explosions lui sont imputées. Le président iranien a prononcé un discours sans ne faire aucune mention de ces explosions.
L'Iran et Israël la jouent profil bas alors que ça chauffe dans la région.
Et le symbole de cette volonté de minimiser l'impact depuis ce matin, c'est sur les réseaux sociaux. On voit un gigantesque rond-point à Ispahan autour duquel la vie quotidienne suit son cours comme si de rien n'était. D'autres images montrent l'atmosphère tranquille autour d'une base militaire au lever du jour. Le président iranien lui-même n'a pas évoqué le sujet lors d'un discours ce matin dans le nord du pays. L'Agence internationale de l'énergie atomique précise qu'aucun dégât n'est rapporté sur les sites nucléaires, aucun dégât ou explosion à grande échelle. D'après l'agence officielle iranienne IRNA, mais c'est encore trop tôt pour mesurer véritablement l'impact.
Un conflit qui a rebondi en France avec l'arrestation de cet homme au consulat d'Iran à Paris.
L'homme avait même été condamné en comparution immédiate en octobre. Inconnu de la justice jusque-là, il avait été écopé de 8 mois de prison avec sursis pour avoir incendié des pneus devant la grille de ce consulat. Les flammes s'étaient propagées jusqu'à la façade, noircie de ce fait, il n'y avait pas eu de blessés. Il s'agit d'un homme de 61 ans, né en Iran, qui, selon nos informations, avait agi à l'époque par vengeance avec une motivation politique contre l'État iranien, responsable selon lui de la mort de son frère. Le sexagénaire avait interdiction de porter une arme, interdiction de paraître dans le 16e arrondissement. Il avait fait appel de sa condamnation et devait être rejugé lundi prochain.
Cet homme est actuellement en garde à vue.
Mais elle a pas pleuré tout de suite, le choc est si brutal.
Cette journée est consacrée à l'écoute et à la solidarité pour tenter de surmonter ce qui est une épreuve terrible, souligne le recteur d'académie après le décès d'une collégienne à Souffelweyersheim dans le Bas-Rhin. Cet élève de 14 ans a fait un malaise cardiaque alors qu'ils étaient confinés en raison d'une agression au couteau à proximité de l'établissement.
Attaque a visé deux fillettes de 7 et 11 ans. Elles ont pu sortir de l'hôpital. Cette attaque a été commise par un homme souffrant de troubles psychiatriques. Qu'il a été interpellé. Et ce matin, l'émotion était évidemment immense chez les élèves.
Les collégiens sont encore sonnés.
Devant les grilles de l'établissement, sous une pluie fine, les élèves se sont rassemblés en petits cercles pour parler de ces 2 heures où ils ont dû s'enfermer dans leur salle de classe, cachés sous des tables.
C'était stressant. On ne savait pas si on allait mourir ou pas, si l'agresseur allait forcer la porte. C'était immense. Mais c'est vraiment stressant, les situations comme ça. Je préfère plus vraiment en parler de ça.
Certains ont perdu une amie.
C'était une quatrième et elle était très gentille, très ouverte aux gens et c'est vraiment un deuil de savoir qu'elle est morte et ça fait mal. Et une de mes amies là, elle est juste derrière, elle est en pleurs parce que c'était l'une de ses meilleures amies. C'est horrible quand on découvre que l'une de ses meilleures amies est morte.
La meilleure amie de la victime a en effet les yeux pleins de larmes, impossible pour elle de parler. Alors Jade, élève de quatrième, très proche de la collégienne décédée, prend la parole.
Bah, c'était vraiment une bonne amie quoi. Elle était tout le temps joyeuse, elle était tout le temps gentille, elle était tout le temps à notre écoute. Et franchement, c'est une fille vraiment super. Et elle méritait vraiment pas ça.
Malgré les vacances, le collège sera ouvert lundi avec une cellule d'écoute et de soutien. On termine avec la reine de la pop qui est de retour.
I'm gonna get you back. Elle est incontestablement la superstar de la musique, elle bat tous les records et elle est même récemment devenue milliardaire. La chanteuse pop américaine Taylor Swift a sorti pas plus tard que ce matin son 11e album studio, le cercle des poètes torturés, pourrait-on dire, pour la traduction française du titre. C'est un album qui est très personnel.
La chanteuse se dévoile comme jamais. Am I
allowed to cry? Est-ce que je suis autorisée à pleurer ? Nous demande la chanteuse de 34 ans à la fin du morceau « Guilty as Sin » et c'est ce qui frappe d'emblée. Des paroles très à fleur de peau. Dans le disque, Taylor Swift évoque des désillusions, des déceptions amoureuses récentes ou pas. Ce n'est pas la première fois, mais elle ne s'est peut-être jamais autant livrée. Apparaissant tour à tour meurtrie, ironique, revancharde ou piquante, elle évoque notamment son image, sa réputation et tout ce que la société américaine a bien pu lui reprocher. On retrouve le chanteur Post Malone sur le premier single annoncé, Fortnite. Un clip doit être dévoilé ce soir. Et Florence and the Machine, autre guest star pour le morceau Florida.
Taylor Swift, c'est sûr qu'il va encore battre des records avec cet album.
Move 15, tous les jours, 18h45, avec Binti.
Marion, retour ce soir sur la série La Fièvre, diffusée sur Canal+, pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est l'histoire d'un footballeur noir qui insulte son entraîneur de salle Toubab, salle Babtou. Les médias s'emballent sur fond de crise identitaire. La fondation Jean Jaurès, un think tank qui s'intéresse aux enjeux démocratiques, s'est penchée sur les épisodes. À Skip, cette série suscite une vraie réflexion sur notre société actuelle.
Et ce qui a beaucoup plu dans cette série, c'est qu'elle a le goût du réel. C'est une fiction, mais on a l'impression qu'elle pourrait avoir lieu dans la vraie vie. Et ça, c'est parce qu'elle aborde des thématiques très actuelles. La place des réseaux sociaux, les techniques de communication, Cyril Hanouna, l'extrême droite, le football, etc. Mais il y a quand même des petites choses qui ne sont pas hyper réalistes, analyse Laurence Deverneau. Elle est la directrice du think tank Destin Commun et elle a participé à ce rapport de la Fondation Jean Jaurès. Selon elle, La Fièvre nous donne l'illusion que la France serait divisée en deux groupes radicalement opposés. Sauf que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Exemple avec la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre en juin dernier.
Souvenez-vous, cette focalisation sur la cagnotte A d'un côté, l'argent qui était récolté pour soutenir la famille du jeune Naël, et de l'autre côté, la cagnotte B, celle pour la famille du policier. On était comme sommé de choisir son camp, en fait, contre l'autre camp. Et ça, vraiment, ça ne correspond pas à la réalité. On a fait une étude qui montrait que 3 Français sur 4 disaient « on peut ressentir de la colère au sujet de la mort de Naël » et en même temps considérer que la police a une mission particulièrement difficile.
Marion, cette vision de deux camps opposés, c'est à cause des réseaux sociaux ?
Et on le voit bien dans la série, quand la communicante Sam Berger se renseigne sur les réseaux pour connaître l'opinion des Français, elle a l'air complètement hypnotisée, mais on oublie que ça ne reflète pas la réalité.
Les utilisateurs de Twitter, c'est grosso modo un tiers, on va dire, des Français qui sont inscrits, mais ceux qui postent régulièrement des choses, c'est une petite minorité en fait de ces personnes qui sont inscrites. Donc ça fait une très petite minorité des Français. Or, ceux qui postent des choses sur Twitter sont ceux aussi qui ont les visions du monde les plus fortement constituées et qui s'affrontent en deux camps opposés. Et du coup, ça donne l'illusion que cette image très polarisée, c'est la France, c'est la société française. Or, ça n'est qu'une petite proportion, une petite minorité des Français. C'est pour ça que je dis régulièrement que la France n'est pas Twitter.
Marion, c'est justement l'objectif de la série, caricaturer certains aspects de la société.
Oui, Eric Benzekri, le scénariste, lance en fait un signal d'alerte. C'est en tout cas l'analyse de l'essayiste Raphaël Lorca qui a coordonné le rapport sur La Fièvre. Dans cette série, on voit bien qu'il existe des techniques très efficaces pour fabriquer l'opinion et qu'il suffit d'un événement pour qu'elle soit utilisé par l'extrême droite.
On est un certain nombre à avoir travaillé sur ça, sur ces techniques de com' d'extrême droite identitaire. Sauf que, les essais se vendent à quelques centaines, voire quelques milliers d'exemplaires. Là, faire une série Canal, vue par des centaines de milliers de personnes qui sont acculturées au concept fondamental des techniques de fabrique de l'opinion, c'est une immense entreprise d'éducation populaire aux enjeux communicationnels de l'époque. En fait, c'est ça qui est formidable.
En tout cas, je vous conseille vraiment ce rapport de la Fondation Jean Jaurès. C'est 123 pages, mais ça vaut le coup.
Et la série aussi vaut le coup. Si vous n'avez pas commencé, il n'est pas trop tard pour regarder La Fièvre, pour décrypter toutes les techniques de com' de l'extrême droite. Merci beaucoup Marion pour ce décryptage.
Move. Du lundi au vendredi, 18h45-19h.
15 minutes d'actu avec Bintili.
Julien vient de garer sa DeLorean, il revient du futur. Lundi, c'est la journée de la Terre pour la 54e édition. Le slogan de la France, c'est « ça te fait de belles jambes ». Tout le monde est invité à laisser la voiture au garage pour se déplacer à pied, à vélo, en courant. Aujourd'hui, 3/4 de la population prend sa voiture pour aller au taf. Julien, t'as 6 ans d'avance sur nous et tu nous dis que les grandes villes ont interdit pour cette journée les véhicules thermiques.
Vous entendez ? pas un bruit. Eh bien, c'est normal, je suis sur les Champs-Élysées et il n'y a pas une voiture, pas une moto, pas un bus. La ville de Paris a interdit, pour ce 22 avril 2030, la circulation de tous les véhicules à moteur thermique, comme à Londres, à Berlin, au Caire, à Sydney ou encore à Pékin. Partout dans le monde, les grandes villes ont pris cette décision. À New York, c'est même impressionnant. Les taxis sont garés en file indienne sur les bords des routes. Les rues sont réservées aux vélos, aux trottinettes. On voit même des personnes avec des rollers. Et les entreprises jouent le jeu. Tous les salariés peuvent arriver en retard aujourd'hui, le temps de faire le trajet en métro ou à pied. Bon, pour cette journée de la Terre 2024, il n'y a aucune obligation, rien de contraignant, mais tout le monde est invité à ne pas prendre sa voiture, car elle est la principale source d'émissions de CO2 et cette pollution tue. 40 000 personnes en meurent chaque année en France. La journée de la Terre existe depuis 1970. Elle est inventée par un sénateur américain après avoir assisté à une marée noire dévastatrice en Californie. Depuis, chaque année, différents événements sont organisés. En France, des écoles, des assos, des collectivités se mobilisent avec des conférences, mais aussi avec des balades à vélo, du covoiturage, des courses à pied. L'objectif ? Émettre le moins de CO2 possible toute la journée.
Merci beaucoup Julien, hâte de découvrir ton futur voyage.
Jusqu'à 19h, 15
minutes d'actu avec Bintili.
L'invité de 15 cette semaine, c'est Valérie Dessouetchine, co-autrice du livre Championne, 50 femmes qui ont marqué l'histoire du sport. Bonsoir.
Bonsoir.
On est à 100 jours des JO de Paris. Votre livre vient de sortir, j'imagine que ce n'est pas un hasard.
C'était un petit peu calculé. On s'est dit qu'un petit peu de culture G et un petit peu de lumière sur les femmes athlètes, ce serait chouette.
Vous avez écrit ce livre avec Régis Dupont, grand reporter à la rubrique Foot à l'équipe. Justement, pourquoi ce parti pris de mettre les femmes en avant et comment vous les avez choisies ?
Le parti pris des femmes, c'était dès le départ. Un angle voulu, à mon avis nécessaire. L'idée, c'était de sélectionner 50 femmes qui ont toutes une carrière sportive extraordinaire. Mais elles ont un petit supplément d'âme. Elles ont traversé des épreuves. Elles ont combattu beaucoup pour vaincre les clichés sexistes, racistes, homophobes, se sont battus pour la parité des gains. On a choisi ces 50 reines-là pour ça.
À Roland-Garros, on entend souvent parler du cours Suzanne Lenglen, sans trop savoir qui c'est. Votre livre nous le rappelle, en quoi cette tenniswoman a été précurseur.
C'était une athlète extraordinaire dans les années 20. Alors elle, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été assez fine. Elle n'est pas arrivée avec un drapeau de revendication. Mais quand même, elle a raccourci la tenue, parce qu'à l'époque, les femmes devaient avoir une jupe sous le genou et les manches longues. Ultra pratique pour faire du tennis, comme chacun le sait. Elle a fait montre, évidemment, d'un talent extraordinaire. Si vous voulez, elle s'est imposée naturellement. Elle a pris sa place. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lui dire « va faire de la couture » parce qu'elle jouait admirablement bien. Elle était très très belle, ce qui ne gâche rien.
Vous mettez en avant des femmes oubliées par l'histoire comme la nageuse Gertrude Ederle, trois médailles aux JO de Paris en 1924 et son rêve, c'était un rêve un peu fou, traverser la Manche à la nage.
Incroyable, nageuse au physique dingue, taillée pour la natation longue. Et donc elle, c'est la première femme qui a réussi à traverser la Manche dans des conditions de dingue. Tout le monde la disait perdante, il y avait des paris. Hein. Les hommes qui ont tenté cette traversée à l'époque nageaient nus. Parce qu'en fait, c'est une question de tenue. Le frottement, quand on nage 7 heures, au bout d'un moment, les frottements abîment vraiment la peau entre le sel. Voilà. Une femme dans les années 20, ça ne nageait pas nue. Et c'est la première à avoir, entre guillemets, elle s'est fabriqué un bikini. Sa sœur l'a enduite copieusement de seins dus pour lutter contre les méduses, le sel, etc. C'est épique. Le jour de sa traversée, il y avait une tempête dingue. Tout le monde lui disait ne le fais pas. Et ça a été retransmis par toutes les radios. Quand elle est arrivée, c'est une star.
Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux ne voulait pas de femmes dans la compétition et vous mettez en avant une sportive française, Alice Millat, qui avait plusieurs casquettes et c'est elle qui a créé des Jeux Olympiques féminins à Paris en 1922.
Alice Millat, toutes les athlètes lui doivent tout. Alice Millat, elle pratiquait plusieurs sports, elle était extrêmement douée et elle était féministe avant l'heure. C'est elle qui s'est battue pour créer des Jeux pour les femmes. Alors les premiers Jeux, il y avait un très faible taux de femmes par rapport aux hommes, mais c'est elle qui s'est battue et qui a fait évoluer les mentalités. C'est ça l'intérêt de notre livre. C'est pas seulement de montrer des parcours de femmes aussi extraordinaires soient-ils, c'est aussi de montrer qu'elles ont ouvert la voie, elles ont fait société.
Vous mentionnez la nouvelle génération avec Simone Biles, mais vous nous présentez aussi la Simone Biles des années 70, celle qui m'a donné envie de faire de la gym, la gymnaste roumaine Nadia Comăneci. Elle, elle a une sacrée histoire avec les Jeux Olympiques.
Alors elle, elle a déréglé les compteurs, c'est-à-dire qu'elle est arrivée aux Jeux de Montréal et en ressortant, elle a découvert la note et sa note, elle a cru, comme presque tout le monde, qu'elle avait 1.
1 sur 10.
1 sur 10. Elle s'est dit, bon, ben, je sais pas, j'ai loupé cette compétition. Parce qu'en fait, à l'époque, les panneaux n'étaient pas programmés pour afficher la note parfaite.
10 sur 10.
10 sur 10. Nadia Comăneci, c'est une une fée. Son pays, c'était à l'époque un régime totalitaire dirigé par Ceausescu. C'était ces pays-là contre les Russes. C'était pas rien. D'ailleurs, maintenant, elle a la double nationalité aux États-Unis. Elle ne donne plus aucune interview. Elle a dû faire très attention.
Elle s'est exilée aux États-Unis.
Elle s'est exilée aux États-Unis parce qu'elle n'a pas voulu s'opposer frontalement au régime de Ceausescu. C'est pas rien. Il y a plein d'athlètes qui ont dû fuir leur pays pour continuer à vivre.
Votre livre parle aussi des stars des dernières années, Serena Williams, la footballeuse Megan Rapinoe, mais aussi des nouvelles, la tenniswoman Naomi Osaka, la basketteuse Brittany Griner. Vous voulez rappeler que les femmes ont dû se battre pour faire du sport et surtout le sport qu'elles voulaient.
Exactement. En gros, hein, on était d'accord pour dire que bon, ok, des filles qui font de la gym, des filles qui nagent, pourquoi pas. Mais des femmes qui font du basket, qui se coltinent au sport des hommes, bah non. Jeannie Longo, quand elle a commencé le Tour de France, son troisième Tour de France d'ailleurs, il y a un homme qui courait lui aussi et qui a dit sur un plateau de télé, oui bon alors honnêtement, elle est assise à côté de lui. Hein. Il lui dit, ouais franchement, une femme, je suis désolée, une femme en juste corps qui fait de la gym, ça va, mais une femme sur un vélo, c'est moche. Personne ne s'est ému de cette remarque ouvertement sexiste. Ça n'a choqué personne. C'est hallucinant. Heureusement, elle avait le mental qu'on toutes les athlètes de très haut niveau. Elle avait aussi beaucoup de réparties et elle l'a remis en place. Mais oui, il a fallu se battre pour exister, pour faire du sport, pour avoir une certaine parité des gains. La route est encore très longue.
Même si ça progresse dans les médias, il arrive encore que des journaux fassent une sur un homme alors qu'une femme vient de gagner une compétition. Est-ce que le sexisme est encore trop ancré dans les rédactions ?
Oui, clairement. Je pense notamment au jeu précédent de Clarisse Abgenenou quand elle avait gagné au moins autant de médailles que Teddy Riner, où je crois qu'elle avait fait une interview en disant pourquoi Teddy Riner, il est invité partout, il est célébré sur toutes les radios, partout. Et clairement, Clarisse Abgenenou, beaucoup moins. Voilà. Donc c'est à nous, enfin en l'occurrence à vous, médias, journalistes, de mettre un petit côté projecteur. Il ne s'agit pas de le faire par parité, vous voyez ce que je veux dire, parce que bon, pour les quotas, il s'agit de mettre en lumière ces femmes extraordinaires. Pas contre les hommes. Elles ne demandent même pas ça en plus, hein, vous voyez, mais au moins autant qu'eux.
Merci beaucoup Valérie de Swetchin d'être passée dans 15. Je rappelle que vous êtes co-autrice de ce très beau livre Championne, 50 femmes qui ont marqué l'histoire du sport. À bientôt.
Merci beaucoup, merci.
Interview à retrouver en longueur la semaine prochaine sur YouTube, sur la deuxième chaîne de Move. En attendant, je vous laisse avec Anis, Théo et Farah pour moins de 10K. Merci à Pierre Ramé pour la réalisation de cette émission. Bon week-end les amis, je prends une semaine de vacances. On se retrouve le 29 avril. La semaine prochaine, ce sera 15 aux couleurs de l'Europe avec Sarah Loubacouche.